Le texte sur lequel je prêche ce matin se trouve dans la deuxième lettre de Paul à Timothée. Vous savez qu'on est en train de lire et de prendre les uns après les autres les textes de cette épître et nous arrivons au chapitre 3. Vous pouvez écouter la lecture que je vais faire ou suivre dans votre Bible selon ce que vous préférez. De Timothée au chapitre 3. Voilà ce que Paul écrit à Timothée. Rappelle-toi bien ceci. Dans les temps qui sont les derniers, il y aura des jours difficiles. En effet, les gens seront égoïstes, amis de l'argent, vantards et orgueilleux. Ils feront insulte à Dieu et seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats et sans respect pour ce qui vient de Dieu. Ils seront durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels et ennemis du bien. Ils seront traîtres, emportés et enflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Ils garderont les formes extérieures de la foi, mais ils en rejetteront la puissance. Détourne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et soumettent à leur influence de faibles femmes chargées de péchés, entraînées par toutes sortes de désirs. Elles cherchent toujours à apprendre, mais sans jamais parvenir à connaître la vérité. De même que Jannès et Jambrès se sont opposés à Moïse, de même ces gens s'opposent à la vérité. Ils ont l'esprit faussé et leur foi ne vaut rien. Mais ils n'iront pas très loin, car tout le monde se rendra compte de leur stupidité, comme ce fut le cas pour Jannès et Jambrès. Jusqu'ici, notre lecture du texte biblique. Ce passage ne pousse pas à l'optimisme. Je commence par un rappel. Cette épître a été écrite par l'apôtre Paul, alors qu'il était en prison, à Timothée, un jeune collaborateur à qui il a confié l'église d'Éphèse. C'est donc une lettre envoyée à un responsable d'église, on pourrait dire à un pasteur, par un homme, un formateur, qui, sentant sa fin approcher, veut transmettre des derniers conseils. Et là, je le disais, le passage est un peu lourd, peu encourageant. Dans les temps qui sont les derniers, il y aura des jours difficiles. Quand on le lit, ça donne l'impression d'une détérioration. Plus le monde avance, pire ce sera. En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Parce que dans la Bible, les jours qui sont les derniers désignent quelque chose de précis. Les derniers jours désignent une période d'une durée indéterminée qui conduit jusqu'à l'accomplissement, la fin. Et cette période a été inaugurée par l'œuvre de salut du Fils et le don de l'Esprit. Anne-Marie nous a replacés dans le contexte, dans la grande histoire de la venue de Jésus. Elle nous a parlé de la venue du Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, nous sommes entrés dans le temps qui sont les derniers. Ce n'est plus un temps à venir, c'est celui dans lequel Paul écrit et dans lequel nous sommes. C'est le temps où l'Église poursuit l'œuvre que Jésus-Christ lui a confiée, celle de faire des disciples. Et dans ces temps qui sont les derniers, le portrait que dresse Paul des gens fait peur. Ils seront égoïstes, amis de l'argent. Ils feront insulte à Dieu, seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats, sans respect pour ce qui vient de Dieu. Durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien. Ils seront traîtres, emportés et enflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Ça en fait des choses. Avec des gens qui sont rongés, dévorés par de tels penchants, nul doute que les temps seront difficiles. Une question cependant. Si les temps de la fin ont commencé, pourquoi est-ce que Paul parle au futur comme s'ils étaient à venir? Doit-on s'attendre à une dégradation progressive de la moralité, que ça aille toujours de pire en pire? Je ne le crois pas. En effet, si nous vivions depuis 20 ans une perversion continue, alors les gens de l'époque de Paul étaient bien meilleurs qu'aujourd'hui. Mais quand je lis le Nouveau Testament, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Je me demande si ce n'est pas plutôt nos illusions quant à l'homme qui s'estompent peu à peu. On peut commencer avec un certain optimisme quant à la capacité de changement. Mais quand on voit que les comportements n'évoluent pas, et qu'ils n'évoluent pas malgré l'enseignement, malgré la prédication, malgré l'évangélisation, alors notre espoir dans le changement s'effrite. Rappelle-toi bien, Timothée, écrit Paul, les temps sont difficiles. Ce n'est pas telle ou telle personne, telle ou telle ville, tel ou tel pays. Ce sont bien les temps que nous vivons, les temps de la fin, qui sont difficiles. Mais pire encore, ces gens difficiles, ils sont aussi présents dans l'Église. Ce n'est pas les autres à l'extérieur. En effet, Paul dit qu'ils garderont les formes extérieures de la piété, c'est-à-dire ces choses visibles que font les chrétiens, comme venir à l'église, chanter, prier, prendre part au service, donner son offrande, prendre la scène, se faire baptiser. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises, ce n'est pas ce que dit Paul. Ce sont les formes extérieures de la foi, c'est-à-dire les choses visibles qui montrent la foi, qui montrent qu'elle est présente. Mais comme tout ce qui est visible, elles peuvent être jouées, elles peuvent être mimées, comme on joue un rôle. Or, dans la foi, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on voit, mais c'est ce qui se passe dans le cœur. Quand j'étais enfant, j'ai appris ce verset, et je crois que les enfants l'apprennent encore aujourd'hui, qui dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Dans une traduction plus récente, plus moderne, « Les humains s'arrêtent aux apparences, mais l'Éternel va jusqu'au fond du cœur. » Et chez ces gens dont parle Paul, le cœur n'est pas dirigé vers la bonne chose. Il rejette la puissance de la foi, la puissance ou ce qui en fait la force. De quoi parle Paul? Qu'est-ce que c'est cette puissance de la foi? Je crois que cette puissance de la foi qui est reniée, c'est Jésus-Christ lui-même, à qui on peut s'abandonner pour être réellement sauvé, réconcilié avec Dieu. Cette puissance, c'est l'Esprit Saint qui peut nous transformer nos caractères. Je lis actuellement un livre extrêmement stimulant écrit par Timothy Keller et il y explique ce qu'est l'Évangile et ce qu'il n'est pas. L'Évangile se trouve entre deux pôles opposés et tous les deux néfastes. Le premier, c'est l'irreligion, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment connaître Dieu, on ne peut pas vraiment être sûr, il n'y a pas d'absolu. Chacun, à sa manière, peut le rencontrer et on fait les choses comme on le sent. Ça, c'est un pôle que l'Évangile n'est pas. L'autre, c'est au contraire, c'est la religion. Dans ses formes extérieures. Je fais ce qu'il faut faire, et je m'applique à cela. Mais en fin de compte, ce que je fais, c'est que je mets ma confiance dans ce que je fais, alors que ma confiance, je dois la mettre en Jésus-Christ. L'évangile, ce n'est ni l'un ni l'autre de ces deux pôles. L'évangile, c'est reconnaître que Dieu s'est révélé en Jésus-Christ et que j'ai besoin de la puissance de son sacrifice pour être sauvé. Que j'arriverai à rien pour mon salut sans lui. Cette puissance, c'est reconnaître que Dieu a communiqué sa volonté pour l'homme et que je ne peux pas la mettre en œuvre dans ma vie sans la puissance de l'Esprit en moi pour me transformer. C'est ça, la puissance de l'Évangile. C'est cette puissance qu'il ne faut pas renier, mais garder au centre de sa vie. Et c'est ça que ces gens ne font pas. Ils gardent les formes extérieures de la piété, et ils renient la puissance, et si seulement ils s'arrêtaient là. Mais en plus, ces personnes répandent leur enseignement, leur façon de voir les choses, ils cherchent à convaincre les autres. Ils s'introduisent dans les maisons et soumettent à leur influence de faibles femmes. Vous remarquerez la cible de cet enseignement, de faibles femmes. Il ne s'agit pas ici de misogynie de la part de la Bible ou de l'apôtre Paul. L'apôtre ne pointe pas les femmes en général, mais un groupe qui est faible, des croyantes fragiles, qui aiment discuter avec ceux qui passent, mais manquant cruellement de discernement pour faire le tri dans ce qu'elles entendent. Et je crois que ce groupe de personnes n'est pas limité au sexe féminin, surtout quand je vois l'accueil qui peut être fait, qui peut être réservé à des enseignements farfelus transmis sur Internet ou ailleurs. Mais pour en revenir à ces gens qui sont une source de souffrance, pour Timothée, Paul trace une gradation. D'abord, ils vivent sans moralité. Ensuite, ils l'assument et s'offrent une justification à travers une piété qu'ils affichent. Et enfin, ils en font la promotion pour essayer de gagner d'autres à ce style de vie. Le tableau n'est pas joyeux. Timothée peut effectivement s'attendre à des jours difficiles dans la conduite de l'Église dont il a la charge. À ce point de la prédication, je suis embêté, parce qu'on m'a enseigné qu'une prédication devait annoncer une bonne nouvelle. Et là, c'est un peu lourd. Où se trouve la bonne nouvelle dans ce triste tableau ? Je crois qu'elle se trouve à la fin du passage avec l'évocation de Jannès et Jambres. Qui sont ces deux personnages ? Peut-être vous ne les connaissez pas, je ne les connaissais pas avant de travailler le texte. Dans la tradition juive, ce sont les noms qui sont donnés aux mages qui se sont opposés à Moïse. Vous vous souvenez ? Comme lui, ils ont changé leur bâton en serpent, ils ont changé l'eau du Nil en sang, ils ont fait apparaître des grenouilles. Et il disait à Moïse, « Tu dis que tu viens de Dieu, mais d'autres peuvent faire la même chose que toi. » Mais au bout d'un moment, ils n'ont plus pu suivre. Et tout le monde a pu voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans le ministère de Moïse. Et il est là, l'encouragement. Au pasteur Timothée, sans doute empêtré face à l'opposition de beaux parleurs, des bons chrétiens en public, mais fermés à la transformation de l'Évangile, Paul rappelle « Sois patient et persévérant, comme Moïse. Et en son temps, Dieu te rendra justice et ses prédicateurs perdront toute crédibilité. » Mais assez parlé de Timothée. Que pouvons-nous retenir pour nous aujourd'hui ? Surtout si nous ne sommes pas responsables d'une église. J'aimerais vous proposer deux pistes. La première de ces pistes, c'est de nous mettre en garde. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, dit-on. Eh bien, tout ce qui va à l'Église n'est pas digne de confiance. Alors, dire ça, ça peut sembler en contradiction avec l'invitation à l'accueil, au commandement d'amour envers son frère. Mais en fait, ça ne l'est pas. L'accueil, l'amour, ça n'applique pas la confiance automatique. Si l'amour est un commandement, la confiance, elle se gagne. Et le Nouveau Testament nous donne des critères pour évaluer ce que nous entendons. La fidélité au reste du témoignage biblique, compris à travers la révélation en Jésus-Christ. Méfions-nous des révélations révolutionnaires, surtout lorsqu'elles viennent de personnes à l'autorité autoproclamée. Depuis ses débuts, l'Église a eu à lutter contre ça. On le voit dans le Nouveau Testament déjà au 1er siècle. Depuis ses débuts, l'Église a reconnu des enseignants dignes de confiance et les a recommandés. Le Nouveau Testament nous invite à faire preuve de discernement, à vérifier, à examiner. Usons de ce commandement. Écoutons les sources fiables et souvenons-nous de cet encouragement. Si nous nous sentons un peu petits face à cette tâche, ceux qui racontent n'importe quoi finissent par être démasqués. La seconde piste que j'aimerais vous proposer, c'est de veiller sur nous-mêmes. Si nous pensons que ce texte ne parle que des autres, que de ceux du dehors, si nous pensons que ce texte vient nous dire « les autres sont dangereux », sous-entendu « toi ça va », alors nous nous mettons en danger. Nous prenons le risque de diminuer notre vigilance et de céder nous-mêmes à l'influence du péché. Paul le dit, ces gens, ils sont également dans l'Église. Aussi, examinons-nous régulièrement. Nous avons dans ce texte une liste de choses qui éloignent de l'Évangile. Nous pouvons les reprendre et nous examiner. Où en suis-je par rapport à l'égoïsme, à l'amour de l'argent, à l'orgueil, à la vantardise, etc. L'Écriture nous tend un miroir. Nous aurions tort de refuser de nous y observer. Prenons garde de ne pas nous croire justifiés par les formes extérieures de la piété, par ce que nous faisons à l'Église. Ce qui compte, ce n'est pas d'être là et de sourire. Ce qui compte, c'est de s'ouvrir à la puissance de la foi. C'est de reconnaître notre besoin de Jésus-Christ pour nous sauver et le besoin de son esprit pour nous transformer et laisser agir cette puissance en nous. Et cette voie de vigilance constante n'est pas une voie facile. Et c'est usant de nager à contre-courant, surtout quand d'autres se laissent aller. Mais nous avons un encouragement dans ce que nous sommes dans les temps de la fin. Ces efforts prendront fin au retour de Jésus-Christ, et là, il viendra récompenser ceux qui ont vécu dans la fidélité. C'est là notre espérance. C'est ce qui nous fortifie sur ce chemin. Soyez encouragés par cette parole. Amen.